Voyage au long cours après Buenos Aires et les rives du fleuve Rio de la Plata, Villemonde jette l'ancre vers la mer Jaune à Séoul. Escale dans l'encre des écrivains coréens. En plein salon du livre de Paris, où la Corée du Sud est le pays invité, Séoul a livre ouvert. En pleine année France-Corée, qui met à l'honneur les artistes de là-bas, voyage en compagnie des auteurs, créateurs coréens. Premier chapitre, première escale, Séoul, Villemonde. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
Villemonde, Séoul.
대한민국을 담았습니다. 우리나라 근현대사가 살아 숨쉬는 곳. 대한민국 역사박물관. 대한민국 역사박물관은 광화문에 있습니다.
Séoul à livre ouvert, par Alain Lefkovitch, Céline Terce et Laurent Macchietti. Occupé dès 1910 par les Japonais qui imposèrent un système de colonisation impitoyable, divisé en deux zones d'occupation administrées par l'URSS au nord et les États-Unis au sud, la Corée sort exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Gyosang, nom donné à la ville par l'occupant nippon, redevient Séoul, littéralement « ville capitale ». Moins de 10 ans plus tard, lorsque la guerre de Corée s'achève en 1953, Séoul n'est plus qu'un champ de ruines. Les effets post-traumatiques ont sans doute été une source dans laquelle ses habitants abîmés ont trouvé la force de faire de la ville, en quelques décennies seulement, une actrice mondialement influente. La présence américaine impose une industrialisation à marche forcée et une économie libérale d'où émergent les premières allures d'une grande ville. Et si, 60 ans plus tard, Séoul se projette sans jamais se retourner, le passé ne cesse de planer, comme une vieille blessure qui n'en finit jamais de guérir. La capitale du Sud vit encore à la merci des milliers de pièces d'artillerie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, posté seulement à 40 km de là. Cette leçon de survie pousse les séoulites à toujours adopter les dernières avancées technologiques pour mieux défaire l'ennemi. À l'image de Samsung, qui a défait la suprématie d'Apple en quelques années avec sa réplique de l'iPhone. D'ailleurs, à Séoul, le haut débit coule comme l'eau du robinet. On paye son taxi comme son métro en effleurant une borne tactile. On envoie des mails sur des colonnes digitales plantées sur les trottoirs grouillants de Gangnam. Mais jusqu'où ira cette constante métamorphose, alors que la croissance économique atterrit en dessous des 3% et que le vieillissement de la population menace? Question dont la réponse se trouve dans les racines chamanistes des Coréens. Car sous la gangue rigide du néo-confucianisme, perce encore le feu des esprits. La chamane Kim Kung-hwa ne vient-elle pas d'être nommée trésor national vivant? Loin du strass et des paillettes, c'est avec les écrivains et les architectes indépendants que l'on explore la question de l'exclusion sociale grandissante. Dans cette ville où seule la réussite économique compte, l'ostensible est roi. Grosse voiture, belle maison, un tiers des Coréens sont aujourd'hui surendettés. Mais cette question reste taboue, comme notamment celle du passé. C'est sur les bords du fleuve Han que commence ce premier chapitre. Hangang River, ou Han River, frontière invisible, frontière sociale et géographique, incarnation d'une ville qui ne cesse de changer d'aspect, engloutie sous le béton comme pour refouler ses origines. Et malgré tous ses efforts, les ancêtres, eux, ne cessent de ressurgir. Loin du brouhaha de la ville, sur les hauteurs, près de la Maison Bleue, l'actuel siège du pouvoir, Kim Chang-hee, écrivain, journaliste, nous donne rendez-vous avec l'histoire.
여기가 이 자리예요 지금.
성임은 이제 한자를 못 읽겠지만 본인이 써있죠. 글자가 똑같죠.
Là, nous sommes en face de Changimun et la petite porte du Nord.
지금 서울에 이제 올드 시티에 문이 8개.
L'ancienne ville de Séoul était entourée de 8 portes, 4 grandes et 4 petites. Et si vous regardez la photo que j'ai reproduite dans mon livre, un cliché qui date d'une centaine d'années, vous voyez qu'elle n'a pas changé depuis. J'ai compilé beaucoup de vieilles cartes et des peintures du XVIIe et du XVIIIe siècle à travers lesquelles nous pouvons observer l'évolution de la ville.
Au
cours de notre histoire, nous avons connu beaucoup de guerres contre les Chinois, contre les Japonais et contre les Nord-Coréens dans les années 50. Et toutes ces guerres ont fait perdre à Séoul son visage d'origine. Grâce à ces cartes et à ces peintures, j'ai pu reconstituer ce visage. C'est important de savoir d'où nous venons. Mais pour ça, il faut parcourir la ville à pied en tentant de suivre les anciennes voies et les indications présentes sur ces cartes et ces peintures afin de retrouver tous ces anciens lieux de Séoul. Avec la modernisation, la ville a totalement changé. Du coup, les gens pensent que la ville est totalement plate parce qu'ils circulent en voiture ou en deux roues. Mais si on se déplace à pied, on se rend compte des dénivelés. Il y a énormément de collines et de montagnes qui composent le décor de Séoul. Regardez cette estampe. Elle a été faite il y a 250 ans. Elle montre la multitude de collines qu'il y avait dans Séoul et on voit bien, là, la porte de Changimun que nous venons de passer. C'est comme si nous étions passés de l'autre côté du décor, dans l'enceinte de l'ancien Séoul. Nous sommes sur les marches que vous voyez sur cette estampe qui a été peinte juste en bas de cet escalier de pierre. Si on regarde l'urbanisme de l'époque, ce lieu est un endroit stratégique parce que d'ici, on a une vision sur toute la ville. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps est couvert et qu'on ne voit pas très bien, mais c'est ainsi.
L'ancien Séoul, c'était... Je ne parle pas de Venise coréenne, mais en tout cas, la ville était parsemée de petits cours d'eau qui ont été recouverts. Pourquoi on les a recouverts ?
Séoul est une ville très contrastée. Et ce qui est étonnant, c'est que les routes sur lesquelles circulent les voitures aujourd'hui étaient d'anciens cours d'eau qui ont disparu, justement à cause de tous ces urbanistes qui ont pensé la modernisation de la ville. Mais aujourd'hui, on essaye de les rétablir, notamment à travers le projet Chang et Chan, du nom de cette rivière qui coule en plein milieu de Séoul. Mais pour moi, ce projet, c'est une arnaque totale. Un business mis en place par le gouvernement pour donner l'impression au monde que Séoul se soucie de son patrimoine ancien. Tout a été fait en dépit du bon sens. Vous savez, c'est comme quand on ferme mal le premier bouton d'un chemisier. Les autres boutons seront tous mal ajustés. Et en fait, je suis inquiet au sujet de tous les grands projets d'urbanisme qui se mettent en place aujourd'hui à Séoul. Ce ne sont que des projets marketing. Excusez-moi, mais quand on aborde ce sujet, ça me met tellement sur les nerfs que là, je vais fumer une cigarette. Là, nous marchons sur ce petit chemin qui est tracé sur cette vieille estampe. Nous surplombons la nouvelle route qui a été construite et qui suit à peu près le même tracé. Sauf que de là où nous sommes, nous avons une vue globale sur la ville que nous n'avons plus sur la route en contrebas. Et puis je crois que ces anciens tracés recèlent en eux tous les mystères de l'ancienne ville.
Ça
저기가 일단은 요 인사동길로 좀 올라가서 인사동 분위기를 좀 볼 거고요.
Je vais vous montrer la rue principale de Insadong. À gauche, là-bas, vous avez le parc Tabgol, un endroit symbolique où s'est signée l'indépendance de la Corée du Sud. Ce parc était le premier parc moderne de Séoul.
À cet
emplacement se trouvait avant le plus grand temple de la ville, qui s'appelait alors Hanyang, à l'époque de Chosun. Je voulais vous montrer ce bâtiment-là, qui renferme le marché Nagwan. Il a été construit dans les années 1960, avec le grand mouvement de modernisation de la ville. On a préservé le marché en l'installant dans cet immeuble, et en dessous, on a percé une grande voie de communication pour le trafic des voitures, déjà à l'époque. C'était seulement 10 ans à peine après la guerre contre la Corée du Nord. À ce moment-là, la Corée était vraiment très pauvre et nous n'avions pas les moyens de construire des routes. Finalement, cette modernisation des années 60 a été un échec. Ce bâtiment est le seul vestige de cette époque. Il y a des gens qui habitent encore dedans. On peut dire qu'il incarne bien la dictature militaire de l'époque.
Là, on est dans ce petit quartier de Insadong, mais on a l'impression que c'est un petit village de poupées. Et au milieu de tout ça, il y a toutes ces voitures, tous ces gros 4x4. C'est ça la modernité de Séoul, c'est la voiture individuelle, c'est American Way of Life.
Vous savez, dans cette ville, les voies principales qu'utilisent les Séoulites pour se déplacer étaient avant des cours d'eau qui ont été recouverts à la fin de l'époque Chosun. Et on a construit ces petits quartiers. Il y a plein d'échoppes qui vendent tout le matériel de calligraphie, des vieux pinceaux, du papier de soie, parce que beaucoup de peintres venaient étudier dans le grand temple qui se situait ici. Et depuis ces temps anciens, le quartier de Insadong a gardé cette tradition artistique. C'est un endroit qui était également connu pour ses antiquaires, parce que lorsque les Japonais sont partis, ils ont vendu toutes les antiquités coréennes dans ce quartier. Un véritable business s'est développé parce que les Américains qui étaient basés dans la ville de Jinju venaient ici pour les racheter. Je veux insister sur le fait que la colonisation japonaise a duré 40 ans. 40 ans, c'est long. Ceux qui sont nés sous la colonisation font partie de la génération de nos grands-parents. C'est pour ça que lorsqu'il y a une compétition sportive qui oppose la Corée au Japon, on doit gagner. On a ça dans le sang. Il faut battre les Japonais. La plupart des bâtiments construits à cette époque ont été détruits. Et cette destruction était nécessaire symboliquement pour les Coréens, même s'il en reste encore, comme l'hôtel de ville. Il faut comprendre que l'occupation japonaise a été vécue comme un véritable traumatisme national. Ces constructions représentaient une modernisation à marche forcée, imposée par les Japonais. Et ça ne passe pas. C'est une souffrance, un véritable handicap. Et personne ne souhaitait cohabiter avec ces constructions.
Pourquoi c'est si douloureux ? Parce que les Japonais ont colonisé toute l'Asie. On a l'impression qu'en Corée, c'est plus douloureux qu'ailleurs.
Les Japonais ont voulu faire table rase de la culture coréenne. Ils nous ont interdit de parler notre propre langue. On devait parler japonais. Ils nous ont imposé des noms et des prénoms japonais à la place de ceux que nous avaient donnés nos parents. Vous comprenez notre douleur ? Et puis, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine, mais on dit qu'ils auraient même voulu briser l'harmonie feng shui de Séoul et de toute la Corée, en plantant un peu partout des grandes barres métalliques pour casser ce qu'on appelle le qi, en sectionnant les grands courants énergétiques qui traversaient le pays. Tout ça nous a poussés à nous battre pour retrouver notre culture et notre langue. Et même si la colonisation s'est achevée en 1945, nous ne sommes pas encore totalement affranchis de cette présence japonaise au niveau de la langue, de la culture, des institutions et de la politique. Beaucoup trop de choses fonctionnent malheureusement comme à l'époque de la colonisation et on est obligé de vivre avec.
Que 70 ans après la fin de la colonisation japonaise, ces barres, les barres métalliques que les Japonais ont plantées, agissent encore aujourd'hui. C'est-à-dire la malédiction japonaise frappe encore la Corée.
Non, moi je ne pense pas que la malédiction continue. Mais je sais qu'il y a encore des gens qui recherchent encore ces endroits où étaient plantées ces barres métalliques et tentent d'analyser l'impact de ces barres sur notre quotidien d'aujourd'hui. Les nouveaux architectes commencent à regarder la vérité en face et se demandent ce qui s'est passé pendant la colonisation en termes de construction. Qu'est-ce que ces constructions japonaises ont apporté de différent et quelles incidences ont-elles eues sur notre société ? C'est intéressant de se poser ces questions.
Je m'appelle Kim Kyung-ok. Je suis écrivain et je vis à Séoul. J'ai souhaité vous rencontrer ici dans le quartier de Hoksu, situé au centre géographique de Séoul. J'ai vécu 8 ans ici. Je connais l'endroit comme ma poche. Nous sommes sur les rives du fleuve Han et c'est un endroit qui m'inspire beaucoup quand j'écris. Une de mes nouvelles se passe justement ici, à Hoksu. Derrière nous, c'est le nord, là où il y a la montagne. Au-dessus de nous, on a ces échangeurs routiers suspendus, et à droite, les pistes cyclables et les chemins de promenade. Le personnage central de ma nouvelle, dont l'intrigue se déroule ici, est un jeune étudiant à la recherche d'un emploi. En attendant, il donne des cours particuliers à une jeune fille. Un jour, ils viennent pour pique-niquer ici. Ils sont à vélo, sur cette piste cyclable, et devant eux, il y a un autre cycliste. Ils tentent de le dépasser, mais quand ils accélèrent, le cycliste accélère aussi. Lorsqu'ils arrivent finalement à le dépasser, le héros ressent une sorte de sentiment d'effroi lié à cet esprit de compétition qui habite les Coréens. Ils vont finalement trouver un petit coin d'herbe pour déjeuner et vont finir par recroiser le cycliste. Le héros habite ici, à Oksu, c'est-à-dire le Gangbuk. En coréen, Gang signifie le fleuve et Buk veut dire le nord. La jeune fille, elle, habite le quartier de Gangnam, Nam voulant dire le sud. Gangnam est le quartier le plus huppé de Séoul. Il incarne la richesse et tout ce capitalisme coréen. Les gens aisés se doivent d'habiter à Gangnam. Ceux qui n'ont pas réussi à gagner de l'argent et avoir cette vie aisée sont malheureusement contraints de vivre ici, à Gangbuk. Le fleuve est comme une sorte de frontière sociale entre ces deux quartiers. Et pour la première fois, la jeune fille traverse le fleuve pour venir se promener avec son professeur particulier, là, dans le quartier de ceux qui n'ont pas réussi. Vous voyez la symbolique ? Donc là, si on traverse le fleuve Han, on se retrouve dans Gangnam. Et tous ces appartements Danji qu'on voit en face sont les plus chers de Séoul. Là, juste à notre droite, on peut également voir des appartements Danji, mais qui, eux, coûtent beaucoup moins cher. Même si de ces deux rives, on a la même vue du fleuve, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Le héros de ma nouvelle est obsédé par ce désir de réussite sociale. Son plus cher désir est finalement d'aller vivre à Gangnam.
Quand moi j'étais petite, la rivière était complètement abandonnée, c'est-à-dire il n'y avait rien autour de la rivière.
So Jin Lee,
et
architecte.
On ne pouvait pas vraiment facilement accéder aux berges parce que ce n'était pas aménagé, c'était même très dangereux. Mais c'est à partir de... Vous savez, on avait l'Olympique de 88 et c'est à cette occasion-là qu'on a commencé à mettre en valeur la rivière. Et il y a environ 10 ans, il y avait une grande opération qui s'appelait Hangang Renaissance, c'est Renaissance de la rivière Han, où ils commençaient à aménager beaucoup de choses aux berges. Ils ont retravaillé les berges et ils ont construit pas mal d'immeubles qui faisaient un peu le landmark, qui ne sont pas forcément réussis. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts. Donc voilà, donc ça, c'est où on sort pour se promener, faire du sport, faire du jogging, etc.
Et entre la rivière et ces immeubles, une autoroute.
Une autoroute. Ouais, ça c'est vraiment un grand scandale, mais bon, ça a été construit pour les Olympiques, c'était.
88.
Ouais, Olympiques et aussi Asian Games en 86.
Les Jeux asiatiques,
Jeux asiatiques en 86. Et c'était à l'époque où la ville avait beaucoup de choses à cacher. C'est-à-dire, c'est plutôt le gouvernement qui voulait cacher plein de choses parce qu'il voulait donner une bonne impression de la ville. Donc, il fallait une route qui amène les gens de l'aéroport jusqu'à l'hôtel très rapidement. Et c'était un peu à cette occasion-là qu'ils ont construit ces autoroutes. Mais du coup, on a tout ce genre de tunnel pour les piétons qui longent un peu la rivière. Et il y a des tunnels qui ont été tout refaits. Parce que la notion de l'espace public avait changé. Parce qu'avant, c'était des tunnels vraiment qui ont le même aspect que les, comment ça s'appelle, les tunnels pour les eaux usées. Vous voyez, ce sont des structures pas travaillées. Et comme on s'est rendu compte que c'est un espace quand même très important pour les piétons, c'est-à-dire à partir du moment où la rivière prenait plus de valeur, on a compris que ces tunnels-là, ce sont un peu des accès piéton pour la rivière qui était très important. Du coup, il y a eu plein de travaux et il y a des très jolis tunnels qui font que ça devienne un vrai espace.
Les Séoulites considèrent ce fleuve comme une frontière. C'est une frontière qui coupe la ville en deux.
Et 그리고 제가 쓴 소설에서도 저기 보시면 이 남자 주인공이 그렇게 생각해요. 나중에
그 c'est ce que je montre dans ma nouvelle. Le héros veut échapper à sa condition. Il regarde ce fleuve avec tous ses appartements de l'autre côté de la rive qu'il voit comme une sorte de mur infranchissable. Il voit ce fleuve Han comme les douves d'une forteresse infranchissable.
예전에 그 강 북쪽은 전통적으로 이 한국의
À l'époque Joseon, la capitale, l'ancien Séoul, se trouvait ici, dans le quartier de Gangbuk. Gangnam n'existait pas. Ce quartier est sorti de terre au moment de la modernisation dans les années 70.
새로 개발된
C'est un quartier totalement artificiel.
강남의 강남이라는 곳 자체가 그러니까
Tout le monde aspire à vivre à Gangnam. Si vous y habitez, c'est que vous avez réussi socialement et que vous êtes riche. Et puis en Corée, on pense que pour avoir une belle vie, il faut d'abord intégrer une bonne université. Il faut donc d'abord aller dans les meilleurs lycées qui se situent tous ou presque dans ce quartier de Gangnam. Du coup, les riches vivent entre eux et se reproduisent entre eux. C'est ici, à ce croisement des deux pistes cyclables, que mes personnages vont dépasser le cycliste. Ils vont s'installer pour pique-niquer un peu plus loin sur la droite, parce que de là, ils ont une vue imprenable sur Gangnam. On peut également voir du côté de Gangnam une cimenterie en pleine ville. Un complexe qui ne colle pas avec le décor. Juste à côté, il y a ce qu'on appelle la forêt de Séoul, une sorte de Central Park en pleine ville. Cette usine, au beau milieu des habitations, c'est aussi ça l'horreur de la modernité. C'est une frontière imaginaire que se créent les Séoulites. Des frontières sociales que tous souhaitent un jour pouvoir traverser. C'est pour cette raison que nous sommes toujours sous pression. Le développement économique de la Corée du Sud a été tellement rapide qu'il est très difficile aujourd'hui de combler le gouffre qui sépare les riches et les pauvres. Certains appellent ça le miracle du fleuve Han. Ce que je voulais dénoncer dans ma nouvelle, c'est cette compétition permanente qui anime les Coréens et qui n'a aucun sens. Le héros tente de chercher du travail, on voit des CV partout et n'arrive pas à décrocher un entretien. Et puis, il y a ce cycliste qui pédale, là, en pleine journée, et qui n'a donc pas de travail non plus, qui est aussi un loser de cette société. Et les deux hommes vont créer eux-mêmes une situation de compétition alors qu'ils n'ont aucun intérêt à se retrouver dans cette situation. C'est ce genre d'aberration que je voulais décrire. Cette compétition a certes été la force motrice du développement économique rapide, mais elle a mis tout le monde sous pression. C'est ingérable. Tout le monde se met en situation de compétition permanente.
Du
Dans ma nouvelle, la jeune fille découvre que dans le quartier de Gangbuk, en pleine journée, il y a des hommes qui sont en train de courir, de faire du vélo, de se promener. C'est quelque chose de nouveau pour elle. Pour la première fois, elle voit des gens qui n'ont pas d'emploi, les déchus de la société coréenne. Et puis la nuit commence à tomber. Il fait de plus en plus sombre et elle imagine que ces chômeurs inoffensifs peuvent, la nuit tombée, devenir violents et méchants. Des gens terrifiants.
Dans les couloirs de Seoul Station.
Il voulait savoir si on était venu pour faire le check-in en tant que SDF. En fait, ici, c'est un lieu où ils peuvent venir dormir. Donc, à partir de 19h30, le centre est ouvert. Donc, ça leur permet de dormir sans rien payer.
Il y en a beaucoup à Séoul, des SDF comme vous ?
Au moins.
Il y en a environ 50 000 dans tout Séoul. Et ce n'est pas le seul lieu où on trouve des SDF. Il y en a aussi à la station de Yeongdeungpo. Il y en a à chaque station.
Yongsan, Cheongnyang-ri.
Surtout à Yongsan et à Cheongnyang-ri.
Mais vous, comment vous êtes retrouvé à la rue, par exemple ?
Il y a des gens, en fait, qui sont là parce que, justement, leur business n'a pas fonctionné. Et il y a d'autres personnes qui sont arrivées là où on est actuellement parce que nous n'avons pas eu la chance de conserver notre famille. Même si ma famille, elle existe toujours, quand j'y vais les voir, ils ne m'acceptent plus.
Vous avez quel âge, monsieur ?
Hein ?
J'ai 60 ans.
Et à Séoul, il n'y a rien pour aider des gens comme vous ?
En fait, il y a des systèmes de sécurité pour nous, les SDF, tenus soit par la ville ou sinon beaucoup d'organismes liés à l'église. Mais malheureusement, on n'a pas la possibilité de rentrer et de sortir sans arrêt comme on voudrait. On n'a pas cette liberté. C'est pour ça que les gens préfèrent vivre dans la rue comme ce qu'on fait actuellement.
C'est-à-dire qu'à Séoul, quand on perd son emploi, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a aucune aide pour vous ?
Il n'y en a pas parce que, en fait, effectivement, la retraite ou ce genre de choses, des aides sociales, on peut les toucher seulement quand on aura 65 ans, mais pas avant. La plupart des gens comme nous, justement, on est voués à une vie de SDF jusqu'à la fin de nos jours, malheureusement. Et même si un jour on touche cet argent, cette aide sociale, la plupart des SDF le dépensent en fait dans l'alcool. S'il y en a qui ont envie de travailler, il faut qu'ils aillent se présenter pour le travail journalier, pour être ouvrier au jour le jour, ou sinon ils n'ont pas vraiment la possibilité de trouver du travail.
Comment il s'est retrouvé à la rue ?
Ça me fait mal au cœur d'en parler, donc je préfère pas en parler ici. En fait, j'ai perdu mon travail parce que je suis devenu vieux et depuis je suis à la rue et je veux pas en parler plus.
Vos familles ?
다 떨어져 나오지.
En général, quand on perd son travail à partir d'un certain âge et qu'on n'arrive plus à subvenir aux besoins de la famille, malheureusement, on se retrouve un petit peu comme un déchet et on n'a plus de place dans la famille.
Et vos enfants, ils veulent plus de vous ?
J'ai encore des contacts une fois par mois, par exemple, avec certains de la famille, mais maintenant, on a une vie assez individuelle dans la famille, c'est pour ça que je ne vis pas avec
eux.
On n'a plus cette tradition où les familles vivaient ensemble et que les enfants s'occupaient des parents.
C'est à cause de quoi ? Pourquoi il y a eu ce changement ?
Je vous laisse réfléchir, regarder à ce courant dans le monde entier. C'est avec tout ce développement et tous ces changements dans le monde. Justement, je vais vous poser cette question. À votre avis, pourquoi ces changements ? Dis-moi.
Le capitalisme ?
Tout à fait. En un mot, c'est cette société capitaliste qui a fait que tout ce changement a vu le jour. Malheureusement, c'est le reflet du monde dans lequel on vit. La jeune génération, les enfants de nos jours, malheureusement, ne pensent pas à s'occuper des parents. Ils n'ont que la possibilité de penser à eux et c'est tout.
Et l'amour de la famille ?
On peut dire que c'est vraiment un niveau bas. On peut mettre une note de 0 sur 20 sur l'amour de la famille en ce moment en Corée. Même s'ils ont les moyens, de toute façon, ils sont devenus tellement individualistes, égoïstes, qu'ils n'ont plus envie de s'occuper de nous.
Quel sentiment vous avez par rapport à ça ? Ça vous met en colère, j'imagine, de savoir que vos propres enfants vous rejettent ?
Dans ce cas-là, on va vers le conflit, donc malheureusement, mes sentiments, il faut que je les garde pour moi. Si vous demandez, par exemple, à des jeunes qui ont la vingtaine ou la début trentaine, si quand ils seront plus tard, est-ce qu'ils vont vouloir vivre avec leurs parents, j'en suis sûr, 9 sur 10 vous diront, bah non, pas du tout, je ne vais pas m'occuper de mes parents. C'est malheureux, mais c'est vraiment un vent très glacial en ce moment. C'est un courant assez universel et je pense qu'on arrive à un stade, ce n'est pas nous qui les éduquons, c'est la société dans laquelle on vit qui les fabrique et qui en font des monstres malheureusement. Ces jeunes enfants, ils sont voués finalement à être des monstres tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Ils ont vu que leur petite vie, leur petit monde et ils ne pensent plus aux parents.
L'histoire de l'île Pamsan, cette île que vous voyez devant vous, est très singulière. Tout le long du fleuve Han, il y a des petites îles qui ont été habitées de tout temps par les Séoulites. Il y en a deux principales. La première, c'est celle-ci, qui est habitée depuis plus de 1000 ans. On dit que ceux qui l'occupaient étaient des gens très libres d'esprit, qui n'arrivaient pas à se soumettre aux conventions sociales. Ils étaient tous de basse extraction.
해줘요. 지금 사실은 이 남쪽에 보이는 저 건물이 고층 건물이 굉장히 많은 지구는 여의도라고 하는데요.
De l'autre côté du fleuve, vous pouvez voir la seconde, l'île de Yoido, qui est très développée et très moderne. Cette île est située au sud de la ville qui a été urbanisée parce que Séoul était surpeuplée. L'île est devenue le quartier où l'on trouve les plus grandes banques et entreprises financières du pays, ainsi que l'Assemblée nationale. Mais pour développer Yoido, les autorités de la ville ont décidé de détruire l'île de Banzan. Au moment de sa destruction, les habitants ont été expulsés et réinstallés dans le district de Mapo. Mais au bout de 20 ans, l'île s'est reformée naturellement.
Comme
vous pouvez le voir, il y a des oiseaux migrateurs qui se sont installés depuis que les hommes sont partis. Ils viennent ici tous les hivers. On en voit déjà, perchés sur les branches des arbres. Mais quand il fera encore plus froid, ils seront des milliers. En plus, comme les eaux du fleuve sont très poissonneuses, ils trouvent toujours de quoi se nourrir. Le paysage est unique, on voit ça nulle part ailleurs dans Séoul. L'autre particularité, c'est qu'en été, cette île est totalement recouverte par les eaux du fleuve, ce qui fait qu'aucun chat ne peut s'y installer. Un vrai paradis pour ces oiseaux. Elle est aujourd'hui beaucoup plus grande qu'elle ne l'était avant. On pourrait y construire plusieurs stades de baseball. Quand la municipalité a décidé de détruire cette île, personne ne se soucie alors de la nature. Et ce n'est que lorsque l'île s'est reformée qu'on a pris conscience de cette importance. Du coup, cette île est maintenant interdite à tous les humains. D'ailleurs, quand on a construit le pont sur lequel nous nous trouvons, là, le pont Sogang, cela a fait polémique car certains pensaient que cela mettrait en danger l'avenir de l'île. Il a quand même été construit, mais pour ne pas déranger les oiseaux, on n'a pas le droit de klaxonner sur ce pont. Les seules personnes autorisées à aller sur l'île sont ceux qui viennent la nettoyer quand l'eau du fleuve a baissé à la fin de l'été, les spécialistes de la faune et de la flore, et également les anciens résidents de cette île. Ils y reviennent une fois par an pour rendre hommage aux ancêtres en y pratiquant le rituel de Gout.
Impressionnant, c'est que de part et d'autre des rives de ce fleuve, on peut voir une mer de béton, des échangeurs autoroutiers, des millions de voitures sur ces échangeurs autoroutiers, sur ces ponts, et cette île qui ressort des profondeurs du fleuve. Vous pensez qu'un jour la nature va finir par engloutir ce béton ?
Oui, à l'origine, personne n'imaginait que cette île pourrait se reformer, et surtout en si peu de temps. L'homme ne peut pas contrôler les forces que déploie la nature. Tout ce béton, ce n'est rien à côté de ses forces. Alors oui, peut-être qu'un jour, la nature reprendra ici ses droits et montrera sa force dans toute sa splendeur.
Vous pensez que les esprits de cette île ont été très en colère de voir que les hommes ont construit tout ça autour ?
Oui, c'est intéressant parce que justement, les anciens habitants de l'île pratiquaient ce rituel de Gout. Et ils le pratiquent encore là où ils résident, dans le district de Mapo. Et ce rituel a été élevé au rang de patrimoine culturel national.
Oh, 그 굿 자체는 이제 여기 살던 여기서 쫓겨난 주민들을 위해서 만들어진 곳은 아니고요. 그 곳이 더 역사가 오래됐어요.
Sur cette île, il était pratiqué depuis toujours pour souhaiter bonne route aux navires qui partaient d'ici. Puisque c'est là que se situait le port de Séoul.
Mais 이런 생각은 합니다. 옛날 사람들은 그 자신들이 닥칠 수 있는 불운이라든가 또는 자기가 살고 있던 동네
Je pense que les anciens étaient conscients de leur faiblesse face à la nature toute puissante.
스스로의 힘을 그렇게 과신하지 않았던 것 같아요.
Ce rituel le leur rappelait.
그래서 뭔가에 빌면서 자기들
Mais aujourd'hui tout va très vite. Tout tourne à 100 à l'heure. Et du coup plus personne ne se pose ce genre de questions.
지금 이제 서울은 굉장히 바쁜 도시가 됐고 그렇게 미래의 불안이라든가
Il faudrait donc pratiquer plus souvent ce rituel de goutte.
저는 그 인천에서 거주하고 있는 이용료 무당이고요.
Je m'appelle Yong An.
우리나라에서 이제
Je suis chaman depuis 28 ans.
곳에 중요 무형문화재, 국가 중요 무형문화재.
Actuellement, j'étudie beaucoup parce que je voudrais passer au stade supérieur et devenir trésor national. Je suis la quatrième génération de chaman de ma famille.
남북으로 갈려져 있잖아요.
Il y a deux façons de devenir chaman, soit par transmission de mère en fille, soit on est choisi par les esprits. Moi, j'ai reçu l'héritage de ma mère et en plus, j'ai été choisi.
C'est quoi le trésor national ?
Il y a le patrimoine national physique qu'on voit ou qu'on touche, comme des bâtiments ou des monuments. Et puis il y a le patrimoine immatériel, comme les rituels traditionnels coréens que je pratique. Les chamans font des rituels pour chasser les mauvais esprits, en invoquant les âmes des grands guerriers et des grands généraux qui ont défendu avec bravoure notre pays.
Alors ce soir, on a vu votre spectacle, c'est comme ça qu'on dit ? Non, c'est pas un spectacle.
Non, ce n'est pas du tout un spectacle, mais vraiment un rituel que j'ai fait pour vous et pour le public.
작도 이렇게 카루에 탄 거 봤죠. 그거는 장군의 영신이 접신이 안 되면 그 칼을 내가 무서워서 못 타요.
Je suis habité par les esprits de ces grands généraux. Vous m'avez vu tout à l'heure quand je suis monté pieds nus sur ces grandes lames de couteau. Si je n'étais pas habité par ces esprits, j'aurais tellement peur que je ne pourrais pas monter sur ces lames sans me couper. Quand je suis dessus, je ne suis plus moi-même. Ce sont ces esprits qui prennent le pouvoir sur moi et habitent mon corps.
Alors, qui vient voir un chaman ?
Ah, 이제 답답한 사람이 무당을 찾아오는데 그 꼭 이제 답답해서만 오는 게 아니에요.
Beaucoup de gens viennent nous voir quand ils sont dans une impasse et qu'ils ne savent plus quoi faire. Il y a également des familles qui pratiquent ce rituel de génération en génération. Tous les ans, ils viennent me voir pour que je réalise ce rituel de goutte pour toute leur famille, parce que c'est une coutume, une tradition. Parfois, il y a des gens qui tombent malades et les médecins ne savent pas pourquoi ni de quoi ils souffrent. Je fais le rituel de goutte et on trouve très vite l'origine de la maladie et les gens guérissent vite. Je ne sais pas si vous pouvez le croire, mais c'est vraiment le meilleur des remèdes pour soigner ces gens. Il y a des rituels pour tout. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans un business, il peut venir me voir pour que je lui assure une bonne réussite. En Corée, il y a des années qui ne sont pas bonnes pour déménager. Mais quand les gens ne peuvent pas faire autrement, ils viennent me voir. Je fais un rituel de goutte pour contrer les mauvais esprits et que tout se passe bien pour eux.
Ça veut dire que vous êtes obligé, avec la modernisation de la société, vous êtes obligé d'inventer un rituel. Comment ça se passe ?
Non, tous les rituels sont identiques à ceux que pratiquaient nos ancêtres. Il ne faut surtout pas que ça change. Le chant que je viens de faire, par exemple, date de la période Joseon. Et les futurs chamans devront chanter la même chose, avec le même air et les mêmes intonations. Malheureusement, la vie nous a coupés de la nature et nous ne pouvons plus pratiquer en ville. Nous devons vivre dans les grands espaces des montagnes où nous avons nos temples, loin de la ville. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui viennent me voir.
Après vous, les jeunes viennent vous voir de plus en plus. Pourquoi ? Parce que dans cette société ultra modernisée, toutes ces valeurs, on les perd.
Dans la tradition coréenne, l'esprit des ancêtres est omniprésent. Dans toutes les familles, qu'on y croit ou pas, quelle que soit sa religion. Et on est obligé d'y croire. Parce que si on ne suit pas cette tradition, les esprits peuvent se fâcher et provoquer des malheurs. Il n'est pas rare de voir des jeunes qui, du jour au lendemain, tombent malades, ont des accidents ou deviennent fous. Personne ne sait pourquoi. Du coup, ils viennent me voir. Et quand je fais le rituel de goutte, si la personne est guérie, la famille croit en moi et en ce rituel.
Il y a une chamane qui a été nommée il n'y a pas très longtemps Trésor National. Elle racontait qu'aujourd'hui, avec la modernisation, avec l'influence de la société américaine, les gens continuaient à venir voir des chamanes, mais en cachette, parce que ça faisait pas très moderne et ça faisait pas très américain de venir voir un chaman.
Ah, 이제 그거는 김구마 선생님이 연세가 높으시니까 그 연세 높은 손님의
기준에 따라. Moi, ce que je peux vous dire de cette chamane, qui était mon professeur et qui aujourd'hui a plus de 90 ans, c'est qu'elle s'occupait de gens de la même génération qu'elle et qui ne sont plus en phase avec la société actuelle. Du coup, ils se cachaient quand ils allaient la voir. Moi qui n'appartiens pas à cette génération, je reçois plein de jeunes qui viennent sans se cacher.
Un Ikyung, écrivain.
아직도 한국은 어떤 그 삼류 단체 생활 같다는 생각이 들 때가 많아요.
Je pense que la société coréenne ressemble à une pauvre série B, comme on voit à la télévision. C'est une société qui pousse à l'uniformisation des pensées et des comportements. On doit tous être dans le même moule. C'est pour cela que dans mes romans, au contraire, j'essaie de mettre l'individu au centre. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, les Coréens ont toujours constitué un peuple unique, avec une seule langue. Et nous en sommes assez fiers. Mais dans le même temps, nous sommes incapables de cohabiter avec d'autres cultures. Nous ne savons que suivre le même mouvement, comme des moutons. Celui qui est différent est considéré comme outsider et mis à l'écart. C'est pour cette raison que vous voyez tout le monde les yeux rivés sur son portable. Si on ne le fait pas, on s'exclut de la norme. La Corée s'est développée tellement rapidement. Il y a 100 ans, nous étions encore dirigés par un monarque absolu. Mais aujourd'hui, cette société est ultra-moderne, high-tech. Et on nie encore l'existence même des individualités. C'est lié à notre culture confucéenne, qui impose un système hiérarchique, vertical, très rigide, dans lequel on est toujours le subordonné de quelqu'un. On nous apprend dès le plus jeune âge qu'il faut suivre la majorité, le groupe, les hommes, les personnes âgées. Personne ne sait dire « non, je ne pense pas comme ça ». Je ne veux pas de ça.
J'ai habité ce quartier pendant 11 ans, dans les tours d'appartements Tanji, qui sont de l'autre côté de la rive. Je travaillais à l'Assemblée nationale parce qu'avant d'être écrivain, j'étais journaliste parlementaire. Pour me rendre à l'Assemblée, je traversais ce pont tous les jours et tous les soirs et je voyais cette île, Pamsan, qui me permettait de me recentrer sur moi-même. Aujourd'hui, on est sous l'influence de ce Pali Pali. Il faut que tout aille vite et on ne prend jamais le temps de se recentrer sur soi. Il faudrait plus d'îles Pamsan dans Séoul. Tous les soirs, quand je passais sur ce pont, je voyais cette île en pleine nuit et sans lumière, car il est interdit d'allumer les lampadaires au-dessus d'elle pour ne pas déranger les oiseaux. C'est extrêmement terrifiant, car dans l'obscurité, on a l'impression qu'il y a des pendus accrochés aux branches des arbres. J'avais l'impression de voir des fantômes qui étaient là et qui me regardaient. Il ressemblait à la mort avec cette lumière noire. À chaque fois, je me posais des questions sur la vie, sur la mort. J'adorais ces moments.
Merci aux écrivains Kim Kyung-bok, Kim Chang-hee, Eun Ik-young, Chang Kang-myung, aux architectes Seo-jin Lee et Jo Han, et à la chamane Lyong Han. Merci également aux instituts français de Paris et de Séoul, et à l'année France-Corée. Enfin, un grand merci tout particulier à Aram Kim, notre infatigable traductrice. Avec les voix d'Olivier Blond, Vincent Bramoulet, Renaud Danner, Xavier Martinet et Yasmine Modestine. Séoul à livre ouvert, prise de son Laurent Macchietti à Séoul et Bernard Lagnel à Paris, mixage Delphine Baudet, réalisation Céline Ters, coordination Catherine Libert, une ville monde d'Alain Lefkovitch.
Les voyages continuent sur le site internet franceculture.fr. Vous pouvez réécouter éternellement en podcast Ville Monde, Séoul et toutes nos escales à travers le monde. Second chapitre, seconde escale dans les sons, les musiques de la ville, la vie de Séoul. Dimanche prochain, 27 mars à 15h, Séoul Blues. Et dans quelques instants, dernier rendez-vous avec les conférences de Carême. Nous retrouvons Culture d'Islam dimanche prochain, 27 mars, sur France Culture.